France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Nadia Tereskevich. Vers 19h45, le son du jour, nous écouterons Stop de Jenny. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui est à Montréal à l'occasion du Festival du Livre de Paris qui ouvre ses portes vendredi avec comme invité d'honneur le Québec. Elle nous fera visiter ce soir le Montréal du grand écrivain québécois Michel Tremblay. Le tout est réalisé par Alexandre Faugeron avec Sébastien Royer à la prise de son. Bonsoir Nadia Tereskevich.
Bonsoir.
Vous êtes la Rosalie du film de Stéphanie Giusto, sorti aujourd'hui dans les salles. Très beau film dont on va parler, qui me donne l'occasion de cette invitation pour en savoir plus sur vous, sur votre parcours, sur vos méthodes de travail. Alors dire pour commencer quand même que votre père, d'origine polonaise, diplômé de l'ESSEC, aujourd'hui directeur général de Beta Série. Alors, j'ai regardé la plateforme parce qu'il y a une partie pour le grand public, mais c'est aussi un outil pour les professionnels. Votre mère, elle, est, disons-le d'abord, finlandaise, et que c'est au cours d'un échange universitaire qu'elle a rencontré votre père à l'ESSEC. Elle est aujourd'hui professeure de Pilates, et selon vous, c'est la femme la plus positive du monde.
Exactement.
Je reprends vos mots. Et votre passion première, c'est la danse. C'est pour que vous entriez au cours de Rosella Hightower que la famille déménage à Cannes, où se trouve cette école, où bon nombre de grands et grandes danseurs et danseuses sont passés. Alors, je ne sais pas, un an près, si vous êtes entrée dans l'école quand Rosella Hightower en était encore directrice, ou pas, parce que vous aviez 4 ans, ce qui est quand même très très jeune pour commencer. Vous n'aviez aucun doute sur votre vocation à ce moment-là? Vous vouliez être danseuse?
Oui, c'était vraiment c'était toute mon identité, en fait. Ça me définissait. Je ne pouvais pas penser à autre chose. J'ai eu la chance de croiser Rosella Hightower à l'âge de 4 ans. Mais ce n'était pas elle. C'était plus elle qui dirigeait. Et c'est vrai qu'en fait, c'est une école incroyable parce que c'est un campus qui nous fait voyager en Europe, qui nous fait, découvrir le métier très jeune. Et donc, en fait, on n'a pas d'autres perspectives. Pour moi, c'était une évidence que j'allais danser toute ma vie.
Oui. Oui, parce qu'on sait très bien que les années d'apprentissage, on en parlait encore avec Aurélie Dupont la semaine dernière, ça, c'est pas forcément tout rose pour vous. Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça, durs, physiquement, psychiquement?
C'est très difficile en fait, la danse, parce que ça nous donne beaucoup de responsabilités très jeunes. Moi, j'avais l'impression à 15 ans que ça commençait, que j'étais pas sur le marché du travail, c'était déjà une catastrophe. Et puis à 18 ans, c'était une sensation très étrange de se dire qu'on a raté sa vie, quoi. Mais vraiment, je le ressentais comme ça. Et parce que après j'avais aussi des douleurs aux genoux, et puis je dansais du matin au soir. Alors évidemment, c'est tout ce qui m'a chargée émotionnellement, la danse. Ça a développé mon imaginaire, ça m'a fait rêver, et ça m'a guidée en fait vers un, j'avais une ambition folle en fait. Donc je pense que c'est très bien aussi d'avoir le sens de l'effort, et en même temps je pense qu'il y a une telle perfection recherchée qu'en fait on se définit en fonction de ça, et que si on n'y accède pas, en fait notre identité est remise en question, quoi. Enfin, c'est assez compliqué, je trouve, pour des jeunes. On se compare énormément et on est en compétition.
Alors, vous avez vécu effectivement ce moment-là où tout est remis en question. Il y a ces cours de 4 ans à 18 ans, beaucoup de voyages, vous le disiez, en Europe, mais aussi aux États-Unis, au Canada, les concours, les auditions. Et puis à 18 ans, vous êtes admise à l'école du ballet du Canada. Mais qu'est-ce qui se passe là qui vient briser votre élan, Nadia Tereskevich? Qu'est-ce qui vous fait renoncer à la danse à ce moment-là?
J'ai réalisé que j'allais pas y arriver, déjà. Parce que même si on est bon, j'étais assez bonne pour être prise dans les endroits. Il faut être vraiment excellent pour vraiment atteindre un niveau et danser pleinement les rôles que j'avais envie de danser. Puis surtout, je pense que j'ai toujours une immense passion pour la littérature. Et en fait, ça me fendait le cœur de pas faire d'études. Et je me suis dit, en fait, je rêvais de faire une prépa. Et une prépa lettres. Et en fait, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et en fait, je me voyais lire dans le studio au Canada. Et j'étais très malheureuse, en fait, toute la journée dans le studio. Et je me suis dit, je vais rentrer trop tard parce que j'avais annulé toutes mes prépas. Et je suis arrivée au mois de fin du mois d'octobre à Paris. Et j'ai supplié les prépas. Et le lycée Molière m'a acceptée en théâtre. Voilà.
Alors, pour faire écho à ce moment-là de votre parcours... Je recevais Jeanne Balibar dans cette émission, c'était il y a 3 semaines. Elle a fait des années de danse avant de faire l'école normale et des études d'histoire. Je lui demandais ce qu'elle pensait qu'il restait de la danseuse en elle. On va écouter sa réponse.
Heureusement, pas trop de choses, à vrai dire, parce que c'est les corps très façonnés par la danse classique, sur une scène ou devant une caméra, c'est parfois un peu trop rigide et tout ça. Donc heureusement, je me tiens suffisamment mal par ailleurs pour que ça se voit pas trop que j'ai fait toute cette danse. Mais je dirais quand même un goût d'habiter l'espace.
Comment est-ce que vous entendez cette réponse, vous, Nadia Tereskiewicz, qui avait ce parcours aussi de danseuse? Qu'est-ce qui reste de la danseuse en vous? Vous le disiez un peu tout à l'heure, mais plus précisément.
En tout cas, pour Jeanne Balibar, moi je vois qu'elle est danseuse, mais pour sa grâce, elle a une grâce qu'elle ne pourra jamais enlever. Mais non, moi je pense que c'est peut-être le sens de l'effort et le rapport à l'espace, aux autres, et aussi le rapport assez instinctif au corps. Parce qu'on dit des choses et parfois le corps dit autre chose, quoi. Et je trouve ça fascinant de voir les postures des gens, de voir comment un corps se modifie pour raconter quelque chose. Le corps raconte énormément. Donc c'est peut-être ça. Et puis l'émotion qui me vient aussi par la musique, qui depuis toute petite j'ai écouté énormément de musique et ça me charge émotionnellement énormément. Je pourrais pas jouer sans musique en fait. Et du coup, je pense que ça vient de la danse.
Charge émotionnelle aussi, une dimension que je n'ai pas évoquée durant ces années d'adolescence, parce que j'ai lu que vous avez suivi des études de foi en Finlande, dans la religion luthérienne. Quelle place ça occupe la foi dans votre vie?
En fait, c'est... je ne sais pas vraiment si je suis une bonne pratiquante, je ne pratique pas vraiment, mais j'ai vraiment la foi dans le sens où je crois en Dieu, mais c'est très culturel en fait en Finlande depuis toute petite. Ça me lie à ma mère, ça me lie à ma petite enfance et à la Finlande, et ça me lie à une forme de confiance, pas forcément en moi, mais dans ce qui va se passer en fait. C'est une sorte de... Je pense que tout le monde, toutes les religions, ou même juste croire en l'univers ou en la vie, c'est une façon d'avoir moins peur de tout ce qui nous dépasse. Chacun croit en... Moi, je trouve ça beau, la croyance en général, quoi. Et Rosalie croit, et ça me touchait, mais je pense que c'est... Ouais, la croyance en général, moi, en l'occurrence, c'est luthérienne, mais voilà.
On est encore loin de la comédie dans ce parcours. On est encore dans vos jeunes années, Nadia Tereskiewicz. Mais si votre père vous a montré beaucoup de films, vous dites avoir été un peu cinéphile forcé, parce que c'était pas la télé, mais c'était Magnétoscope avec les grands noms, les Billy Wilder, les Hitchcock, le cinéma italien, le goût personnel, vous l'avez dit, beaucoup de musique, de la littérature aussi. Les livres qui vous marquent quand vous êtes adolescent, toute jeune femme, ce sont lesquels?
Au tout début, c'était j'ai lu très jeune en fait, et je suis vraiment tombée dans la littérature française du 19e siècle, donc Flaubert, Stendhal, Maupassant, en fait les classiques qu'on lit à l'école, mais moi je les ai vraiment découvertes, je pense, trop jeune, et j'ai énormément lu là. Et en fait, à 15 ans, il y a un philosophe, je sais plus, à la radio, qui avait dit que si on n'avait pas lu à 15 ans les frères Karamazov, on avait raté sa vie. Et en fait,
dire des choses pareilles.
Voilà, je sais. Et en fait, moi, mon père m'avait dit, toi, tu lirais pas les frères Karamazov. Et ça m'a mis un challenge. Et en fait, je l'ai lu. C'était une épreuve. C'est long. J'ai pas aimé. Je comprenais rien. Et en fait, je m'en souviens tellement bien. C'était un hiver. Et je me disais, c'est vraiment un cauchemar. Et en arrivant à la fin, je me suis dit, mais quelle joie. Je peux lire tout ce que je veux maintenant. Et là, je suis devenue une immense, je sais pas, amatrice de littérature. Enfin, c'est devenu une joie immense. Et là, j'ai découvert beaucoup, beaucoup de romans de la littérature russe, Anna Karénine, surtout, que j'ai lu en finnois, en français. Enfin, voilà, mais Tchekhov, qui vraiment est mon auteur préféré, parce que pour ses nouvelles que j'ai découvert d'abord et les pièces après. Voilà, et puis et ensuite je suis partie dans plein d'auteurs. Très récemment j'ai commencé à lire la littérature contemporaine, mais après je suis en fonction des tournages aussi. J'ai découvert par exemple Aaron Appelfeld, qui fait partie de mes auteurs préférés, ou Alice Munro, qui vraiment je pense est quelqu'un. C'est vraiment des livres, en l'occurrence Alice, elle écrit des nouvelles. Et c'est quelqu'un, voilà, qui parle de grands sentiments, alors qu'elle parle des quotidiens. Elle rend le quotidien miraculeux. Elle parle de l'ordinaire, et ça devient. Enfin voilà, j'ai des auteurs comme ça, je dirais Alice Munro, et puis. Voilà.
Ça en fait déjà beaucoup. Alors côté musique, une madeleine de vos jeunes années avec votre choix musical qui s'est porté, Nadia Tereskevitch, sur un morceau de Goldfrapp, Stranger. Quel souvenir ça va faire remonter en vous d'écouter cette chanson ?
Beaucoup, parce que c'est mon groupe préféré encore aujourd'hui, et c'est un des premiers que j'ai écouté. Voilà, j'ai suivi la sortie de tous les albums, j'ai dansé dessus, j'ai écouté beaucoup... avec mon père en voiture, voilà. Donc je me souviens quand c'est sorti exactement. Donc voilà.
On écoute Stranger.
Stranger, when you look at me, light as day, born a mystery. You're the in-between, boy and girl. Ooh. Well done, and I've known. Yeah.
Stranger de Goldfrapp, choix musical ce soir de notre invitée Nadia Tereskevitch. Alors on était restés nous à l'arrêt de la danse, au retour en France, Hippocagne, au lycée Molière, vous ratez de peu l'entrée à Normal Sup. Mais vous étiez donc en option théâtre, vous qui n'aviez vu essentiellement que des ballets, vous allez manger du théâtre pendant ces années-là, 3-4 soirs par semaine, et puis il y a aussi un film important, Breaking the Waves de Lars von Trier, alors présenté quelques jours avant votre naissance au Festival de Cannes, ce sont les hasards de la vie, vous le voyez donc évidemment bien plus tard, et qui vous démontre que le cinéma peut bouleversé. Pour autant, vous n'avez pas encore l'idée d'être comédienne, je crois, à ce moment-là. Alors, avant de nous dire comment ça est venu, une voix amie, encore, à vous faire entendre, Valeria Bonitedeschi, qui était là à votre place le 27 février dernier. On parlera plus tard de votre travail avec elle pour Les Amandiers, mais pour l'instant, je voudrais savoir si son parcours fait écho au vôtre, Nadia Tereskevitch. Je vais lui demander d'où venait son désir de devenir comédienne. On écoute sa réponse.
Oui, je pense que j'aime la littérature. J'ai besoin de la littérature, j'ai besoin de la parole écrite, j'ai besoin de m'oxygéner l'angoisse grâce à la parole écrite. Mais j'ai commencé par étudier et l'étude était synonyme d'une grande solitude pour moi. Et du coup, je me suis retrouvée dans des cours de théâtre pour à la fois être au contact avec la parole écrite et à la fois être au contact des autres. Parce que, voilà, j'avais l'impression que, quand même, il me manquait les rencontres. Et pour moi, le théâtre et le cinéma, c'est les textes et c'est les rencontres humaines. Mais c'est aussi important les rencontres que les textes.
Alors, est-ce que ces paroles de Valeria Bruni-Tedeschi font écho en vous, Nadia Tereskevitch ?
Ah, plus qu'écho, hein. Je sais que, en tout cas, je comprenais Valeria sans qu'on en ait vraiment parlé officiellement, mais en tout cas, l'amour pour la littérature, l'amour pour la danse, parce que Valeria danse aussi beaucoup. Et ce qu'elle dit des rencontres, c'est qu'en fait, le cinéma mêle tout ça, le rapport qu'on a à l'espace et aux autres dans la danse et le plaisir fou des mots et de la littérature et de la solitude qu'on a en lisant et en travaillant des textes quand tout se mêle et qu'on raconte des histoires, etc. En fait, c'est comme s'il y avait tout ce que j'aime dans un métier, en fait. Donc, c'est... les langues aussi, découvrir une culture à travers un film, parce qu'un film raconte beaucoup sur comment on voit les choses, comment on perçoit les choses. La langue raconte énormément, jusqu'à la grammaire de comment on perçoit la vie et en fonction des cultures. Donc, je trouve que le cinéma mêle tout ça et permet à des gens improbables de se rencontrer, de se côtoyer. C'est un rapport humain qui, moi, me touche énormément. Mais évidemment, l'amour de la littérature au début, oui.
Au départ, alors, d'abord pour financer votre vie étudiante, vous faites de la figuration, de la danse, évidemment. Il y a Paulina dans C'est sa vie, de Valérie Muller et Angèle Presse-Locage. Puis la danseuse de Stéphanie Di Giusto, que vous avez donc retrouvée. On va en parler pour Rosalie. Il paraît que sur les plateaux, vous aimez bien discuter avec les uns et les autres et qu'on vous dit, mais... Va donc au cours Florent, vous y allez, vous entrez dans la classe libre, on reconnaît votre talent. Et alors, comment ça se passe les premiers cours, en fait, vos débuts sur une scène de théâtre et plus de danse ?
Ben, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. C'est en fait la scène. Mais en fait, je m'en rends compte à quel point j'osais pas du tout jouer parce que je savais à quel point c'est difficile d'accéder au métier de danseur, ce que ça demandait. Donc je me projetais pas du tout, je me donnais pas une légitimité à me dire que je pouvais jouer. Et en fait, le travail était immense, surtout techniquement, etc. Après, le plaisir en fait d'être sur un plateau et de dire des textes que j'aime tant, que j'ai tant lu, ça m'a rendue tellement joyeuse. Il y avait un super groupe. Je suis pas restée très longtemps parce que j'ai commencé à travailler assez rapidement. Mais en tout cas, il y avait cette énergie. En fait, pour moi, la vraie école que j'ai fait, c'est plus tard, c'est avec Valeria. En fait, la vraie école où on travaille en fait le muscle et on cherche et on peut se tromper. C'est ça qui est génial aussi en travaillant au théâtre, c'est qu'il y a le temps d'aller chercher des choses improbables, de se tromper, de travailler. La projection de la voix, etc. Mmh. C'est quand même un travail qui, moi, me manquait complètement. Mmh. Donc, j'avais quelques facilités à des endroits et puis d'énormes lacunes à d'autres. Quoi.
Et puis, une autre rencontre qui va aussi, là, carrément, vraiment changer le cours de votre vie avec le comédien et cinéaste Denis Berré, qui fut pendant près de 40 ans aussi le mari d'Anna Karenina. On va, en février 2016, ils étaient tous les deux invités d'Aurélie Charron sur cette antenne. On écoute ce petit extrait.
Denis Berré, je crois que vous décrivez Anna Karenina comme un chat qui danse sur les trottoirs.
En tous les cas, je trouve l'expression juste. C'est-à-dire que, par exemple, si on fait du vélo avec Anna Karenina, elle siffle des airs de Delerue, de Nino Arota, et on se croirait toujours un peu dans un film gay. Avec on a l'impression de fêter la vie. Et donc, quand elle danse pas sur les trottoirs, elle chante sur les vélos.
En tout cas, là, avant de commencer l'émission, tous les deux, vous étiez en train déjà de tapoter des rythmes sur la table et de commencer à chanter presque.
Oui, on peut le refaire d'ailleurs.
C'est un rythme qu'Anna m'a appris. Moi qui ne suis pas du tout musical, c'est la seule chose rythmique que j'arrive à faire, tandis que tous ses amis musiciens essayent encore d'arriver à le faire.
Ah, allez-y pour voir. Pas mal.
Alors, quelle importance il a eu, Denis Berré, dans votre parcours, Denis Berré, Nadia Tereskevitch?
Une immense importance. Anna aussi, c'est des gens qui m'ont vraiment fait confiance. Denis et Anna, au-delà de m'avoir donné un goût pour le cinéma, parce qu'ils m'ont montré tellement de films, les Cassavetes, les Godard. J'ai découvert en fait le cinéma de la nouvelle vague, tellement de choses. Et puis aussi, il m'a dit est-ce que tu veux être actrice dans mon film? Je disais je veux bien faire ton film. Il me dit non, mais tu seras actrice, quoi. Et il me l'a vraiment dit. Et sur le moment, je l'entendais pas, mais je sais à quel point c'est comme si on m'avait jamais donné d'autorisation, parce qu'à la danse, on m'a jamais dit que je serais danseuse. En fait, on m'a toujours dit l'inverse. Et donc, en fait, là, il m'a dit, mais non, tu seras actrice, quoi. Et donc, je sais même pas si aujourd'hui, enfin, c'est tout est en travaux, quoi. Mais, en tout cas, il m'a donné une autorisation d'essayer, en fait, c'est ça. Puis après, il m'a soutenue et jusqu'aux Amandiers où il est décédé pendant le tournage des Amandiers. Et c'est quelqu'un que j'appelais pour les conseils, tous mes conseils, de choix, de conseils de jeu, de comment travailler. Voilà, c'est des gens qui m'ont beaucoup soutenue et que j'aimais tendrement. Quoi.
Avec qui vous avez aussi dédié ce César du meilleur espoir. Mais c'est vrai qu'il vous a donné votre premier vrai rôle au cinéma dans son film Sauvage. Alors ce tournage, en quoi il confirme, alors d'abord qu'il avait raison, que vous seriez actrice, mais en quoi il confirme votre désir d'être comédienne, Nadia Tereskevitch?
Mais en fait, c'est vrai que quand on est en cours de théâtre, on peut pas savoir si on aime jouer ou pas, parce que c'est un exercice tellement différent, parce que
c'est un exercice.
C'est un exercice, exactement.
C'est pas le travail encore.
Exactement. Et il y a pas en fait, être sur un plateau, c'est aussi, moi je comprends qu'on puisse ne pas aimer être sur un plateau, mais qu'on adore jouer. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte à quel point moi j'adore cette attente. J'adore rêvasser, j'adore l'énergie d'un plateau. Et en fait, avec Denis, c'était un tout petit plateau, on n'était que deux actrices, mais j'ai adoré en fait ce qui se passait avec cette actrice qui est incroyable, qui s'appelle Katharina Wallenstein, qui jouait dans les films de Manuel Oliveira et tout. Et en fait, c'était quelqu'un qui était hyper libre et qui m'a vraiment emmenée avec elle. Et voilà, donc c'était plus une envie folle de jouer, quoi, en rentrant. Je me suis dit, oh, c'est dingue, j'ai trop envie. Et c'est venu sur ce tournage.
Et puis ensuite, il y a un film noir dont j'ai souvent parlé sur cette antenne, mais enfin, commence quand même à rentrer dans les cinéphilies, parce qu'il était très sous-estimé à mon avis, c'est Seules les bêtes, de Dominique Moll, au cœur d'un casting quand même ahurissant, Denis Ménochet, Laure Calamy, Damien Bonnard, Bastien Bouillon, mais aussi Valeria Bruni, oui. Tedeschi. Là, c'est quand même aussi une nouvelle expérience, puis Dominique Moll, maintenant, tout le monde a compris vraiment quel grand cinéaste c'était, mais c'est encore un autre univers, c'est encore une autre partition. Ce tournage-là, il marque aussi une étape pour vous importante?
Alors vraiment une étape tellement importante parce que j'ai accédé, en fait j'ai rencontré toute ma famille de cinéma sur Seules les Bêtes, vraiment. Parce que les filles d'Ohécourt, avec qui j'ai fait Possession derrière...
Productrice, pardon.
Oui, elles sont trois. Caroline Delgeau, Carole Scotta et Barbara Letellier. Gilles Marchand, qui a co-scénarisé, qui a écrit aussi le film de Campillo, Robin Campillo. Puis Damien Bonnard et Denis Ménochet, qui sont comme mes grands frères de cinéma. Valéria, que j'ai rencontré là. Enfin, ça a été vraiment un film... qui m'a permis d'entrer un peu dans le milieu parce que j'ai pu y passer des castings après. Enfin, c'est Agatha Sanforder, la directrice de casting, qui m'a donné la chance de passer ce casting et ça a vraiment tout changé en termes d'opportunités.
Et c'était bien mérité. Alors, pour rappel, Les Amandiers, qui proposait donc une plongée dans les années de jeunesse des comédiens formés par Patrice Chéreau, parmi lesquels donc Valéria Brunet-Tedeschi, dans les années 80, vous y interprétez donc une sorte d'alter ego, on va dire, de Valéria. Je lui ai demandé dans cette émission comment elle dirigeait ses interprètes. Écoutez sa réponse.
Chacun a un traitement particulier. Il y a des acteurs ou des actrices auxquels il ne faut pas parler trop. Qu'il faut laisser libre, qu'il faut accueillir, il faut un tout petit peu guider. Ça veut dire on les dirige, mais de façon presque discrète, presque secrète, sans qu'ils le sachent. Au lieu, il y a des actrices ou des acteurs à qui il faut parler plus, ou qu'il faut. Certains, il faut carrément leur montrer. Pour qu'ils fassent pas une imitation, mais du mimétisme. C'est autre chose. C'est-à-dire faire ressentir la respiration. C'est surtout la respiration des personnages qui est importante quand on joue. Comment un personnage respire? Est-ce qu'il respire vite? Est-ce qu'il respire calmement? Est-ce que l'oxygène est haut? Ou est-ce qu'il part du ventre? Ça, c'est très important. Et selon les périodes de la vie, on respire pas de la même façon. Et alors, parfois, une personne a exactement la respiration du personnage, parfois non. Parfois, il faut lui montrer, lui faire ressentir un autre rythme intérieur. Ça dépend des acteurs et des personnages et des films.
Alors vous, Nadia Tereskiewicz, comment vous a dirigé Valéria Brunet-Tedeschi dans ces différentes méthodes qu'elle évoquait là?
Ben nous, on avait une sorte de langage commun qui s'est créé à force de travailler ensemble en amont, qui a fait qu'à un moment donné, on n'avait même pas tant besoin de se parler, mais on se comprenait très bien. Après, moi, je faisais partie quand même, dans ce qu'elle décrit, de personnes, j'ai besoin qu'on me parle, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin d'être guidée. Alors, pas du tout le mimétisme, ça, je ne pourrais pas, mais par contre, non, d'être emmenée, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui en fait, elle le vivait avec moi. Alors, parfois même, elle parlait pendant les prises,
oui, c'est ce qu'elle raconte.
C'est ça, elle parlait pendant les prises. Elle était des fois à mes pieds et elle parlait. Et en fait, comme elle dit, Jonas, il ne pouvait pas. Mais moi, en fait, pour ce film, ça fonctionnait. Ça dépend des films. Oui. Mais là, comme c'était une sorte de voix intérieure et que je comprenais, en fait, j'arrivais. J'ai essayé, en tout cas, de traduire son énergie, mais comme moi, je le ferais. C'est-à-dire que je n'ai jamais essayé de l'imiter parce que ça, c'est quelque chose qui... En tout cas, moi, je n'y arrive pas parce que ça demande d'être vraiment un acteur technique, enfin, qui sait faire. Alors que moi, ce que j'arrivais à faire avec elle, en tout cas, c'est une sorte de transfert d'énergie. Et je dois dire qu'on arrivait à se lire quand même très facilement. Donc voilà, et c'était assez passionnant comme travail parce qu'elle m'a emmenée dans des endroits émotionnellement que je ne connaissais même pas. J'ai été envahie par des émotions que je ne connaissais pas. Et encore aujourd'hui, j'essaye d'appliquer des mêmes trajets qu'elle m'a appris à faire, en fait.
Alors, quelques mois après la sortie des Amandiers, on vous retrouve dans un tout autre registre, dans Mon Crime de François Ozon.
Ouais.
Vous êtes encore une actrice, mais ce n'est pas vraiment le même genre. Le film rencontre un très grand succès, plus d'un million d'entrées en salle. Mais je l'évoque aussi parce que donc aujourd'hui est sortie en salle Rosalie, qui parle aussi d'une femme qui s'émancipe, qui veut prendre le pouvoir dans une société patriarcale. Alors si Mon Crime se passe dans les années 1930, Rosalie nous entraîne lui dans les années 1870. C'est juste après la guerre que la France vient de perdre contre le royaume de Prusse. Je fais le lien entre ces deux films, mais pour vous, Nadia Tereskiewicz, est-ce que votre rôle dans le film de François Ozon a nourri, d'une façon ou d'une autre, celui que vous interprétez pour Stéphanie Di Giusto? Est-ce que Il y a cette sorte de poupée gigogne des, ou je sais pas comment il faudrait dire, de cadavre exquis de rôle en rôle.
Ah, j'aime bien cette idée. Je l'avais pas vraiment, vraiment conscientisé, mais c'est vrai que je me suis rendu compte en regardant un peu que j'aime bien les personnages qui ont en eux ce besoin d'émancipation, mais ou ce besoin de liberté, mais en fonction des époques, c'est différent, en fonction des conditions. Par exemple, chez Robin Campillo, dans L'Île Rouge, c'était une femme dans les années 60 qui était mère de foyer avec trois enfants, femme de militaire. Donc évidemment, elle n'était pas émancipée. Mais en fait, ce que j'ai adoré, c'est qu'on sentait qu'à tout moment, elle pouvait. C'est-à-dire qu'elle pouvait échapper. On sent, c'est comme si elle représentait presque l'époque, le passage des années 60 aux années 70. Il y a une sorte de moment où on se dit, ah tiens, elle va s'émanciper, elle peut le faire. Et dans les années 30, pareil, pareil, c'est encore autre chose. Les femmes n'avaient pas le droit de vote, carnet de chèques, enfin, besoin d'une dot pour se marier. Enfin, c'est fou quand même quand on découvre alors, tout ce qui a été fait, évidemment, tout ce qui reste à faire, mais tout ce qui a été fait, enfin, il y a quand même un... C'est fou. Quand on se plonge, qu'est-ce que c'est une femme dans les années 30, c'est déjà bien différent de 1870. Ouais. Mais en tout cas, de voir ça, de voir ce combat-là pour une forme de liberté et de s'épanouir, en fait, en tant que femme... avec les désirs et les envies qui sont en fait celles qu'on peut avoir, celles que j'ai, auxquelles je m'identifie très bien en fait. Donc j'essayais en fait de ramener à moi le plus possible ces personnages avec mes propres envies d'une jeune femme de 2024.
Rosalie, donc, un secret, alors que le spectateur, lui, ne découvre qu'au bout d'un certain temps dans le film. Alors, hélas... Alors, l'affiche est très belle, mais bon, c'est quand même un sacré indice. Sans parler de la bande-annonce, je répète toujours que je suis pour la suppression des bandes-annonces, mais ça, c'est un autre problème.
Oui, je suis d'accord.
bon, merci, vous faites partie de mon club.
Voilà, c'est ça, complètement.
Je donnerai un bulletin d'adhésion. mais comment est-ce que, au départ, Stéphanie Di Giusto vous a parlé de ce personnage? Comment elle vous a parlé de ce qu'elle voyait pour Rosalie?
Elle voyait vraiment un personnage enthousiaste, solaire, qui avait envie d'aimer,
d'être aimé.
Exactement. bon, je suis dans le club.
Oui,
je suis dans le club. D'être aimé et puis qui allait vivre une histoire d'amour. Et en fait, moi, dès que je l'ai lu, j'ai été vraiment touchée par le destin de cette femme. Il y a quelque chose de romanesque de nouveau. Même Stéphanie, elle écrit d'une façon très littéraire et qui me plaît énormément en fait, parce qu'on rentre dans un roman. C'est comme c'est un magnifique portrait de femme, et c'est pour moi, c'est un grand destin. Il y a quelque chose de, en fait, ça en devient presque un récit atemporel, alors que c'est un récit très intime, et il y a quelque chose d'universel, dans le fait qu'on puisse s'identifier à une femme atteinte d'hirsutisme, fin 19e siècle. Et voilà, en tout cas, elle voulait, un personnage qui est jamais victime, qui est combatif et qui est bienveillant. Voilà. Et l'idée de réinventer le féminin, c'est ça qu'elle voulait. C'est comme ça aussi qu'elle m'a. Elle n'avait pas à me convaincre, en fait. Elle m'a convaincu que j'étais tout de suite partante. Mais enfin.
Qu'elle vous a guidé, c'est vrai.
Elle m'a guidé, de réinventer un film. Mmh. Non,
oui. Alors, vous le disiez tout à l'heure, le cinéma a ceci, notamment de formidable, que ça permet de découvrir des univers, des époques. Et là, en l'occurrence, on vient d'évoquer trois films d'époque. Alors, est-ce qu'il y a une méthode, Tereskevitch, pour préparer un rôle, ou est-ce que ça change selon les rôles? Par exemple, la France, 1870, est-ce que vous avez eu envie de lire des livres d'histoire? Comment on vivait dans les campagnes? C'était quoi le début de l'industrie? Est-ce qu'il y a des choses comme ça pour vous préparer, vous, votre cuisine?
Moi, j'adore ce temps de prépa. C'est vraiment quelque chose que j'adore parce que c'est un temps pour rêver. J'espère avoir encore la possibilité de prendre le temps comme ça pour rêver. Donc, complètement, de lire des choses, de voir des films aussi qui m'ont inspirée. Et comme Stéphanie, elle voulait pas du tout, Di Giusto, pardon, voulait pas du tout faire un biopic sur Clémentine Delay, par exemple,
dont le personnage dont elle s'est inspirée. Ouais.
Voilà, elle voulait vraiment raconter une histoire d'amour. Je suis plutôt allée, elle voulait pas raconter, en tout cas, un phénomène de foire. C'était pas l'idée. Donc, j'ai même pas vu Freaks, tout ça. Enfin, j'ai pas vu ces films-là. Mais j'ai plutôt vu, par exemple, Rosetta des Frères Darden. Pour La Rage de Vivre d'Emily Deakin, qui m'a beaucoup inspirée. Je pense que c'est vraiment le personnage. Et d'ailleurs, elle était fou. Elle était dans le jury à Cannes pour Rosalie. Donc, j'ai ma plus grande inspiration qui était dans le jury. Je me suis dit, c'est fou, enfin, c'est improbable. Donc voilà, Émilie, mais il y avait aussi, par exemple, la fille de Ryan, de David Lynn. En fait, voilà, et puis, comprendre ce que c'est, là, en termes d'histoire, comprendre ce que c'est d'être une femme à cette époque-là, comprendre ce que c'est... j'avais entendu que... pardon, le micro. J'avais entendu que, par exemple, une femme qui a un défaut, c'est terrible à dire, mais un défaut, par exemple, la dot
doit être
plus grande. Enfin, des choses comme ça. Et donc, c'est d'où la grande trahison pour le personnage d'Abel quand il découvre qu'on lui a menti. Parce que ça commence, et là, je dévoile rien, c'est dans la bande-annonce.
Hélas.
Mais voilà, mais dès le début, il est
sa femme a un défaut physique.
Voilà, c'est ça.
On va dire ça comme ça.
Si on le dit avec des guillemets, évidemment. Mais voilà, donc, toutes ces conditions-là, de comprendre qu'on est dans un climat de suspicion, ça a pris la guerre franco-prusse. Mmh. Tout ça, c'est quand même des choses, je voulais me rafraîchir pour comprendre. Où est-ce qu'on est dans ce petit village, pourquoi enfin, c'est vraiment un petit village qui est vraiment dirigé par le patriarcat, qui est soutenu par l'Église, comprendre tout le carcan dans lequel voilà, elle évolue. Parce qu'en plus, on pourrait se dire, mais pourquoi, par exemple, c'est si fou qu'elle fasse rentrer les femmes dans le café? Mais parce que les femmes ne rentraient pas dans le café. Donc en fait, c'est que des plein de choses comme ça qui faisaient qu'on peut comprendre un peu plus où se situe la liberté qu'elle prend. Et voilà.
Alors, on évoquait plusieurs films d'époque. On en parle souvent avec les comédiennes et comédiens dans cette émission, de l'importance des costumes dans la construction d'un personnage. Est-ce que c'est aussi une base de travail pour vous? Parce que, on l'a bien compris, on l'a dit, hein, le corps parle. L'ancienne danseuse que vous êtes le sait bien. Enfin, je dis ancienne. Pratiquez encore ou pas la danse?
Je fais de la danse contemporaine.
Bon. donc, la danseuse que vous êtes le sait bien. Est-ce que vous aimez aussi chercher la démarche des personnages? Enfin, c'est vraiment la façon dont ils se tiennent debout, dont ils s'asseyent. Est-ce que tout ça, c'est votre cuisine aussi?
Ah, complètement. Ben, ça, j'adore. Mais parce que, en fait, là, pour Rosalie, par exemple, elle devait se surféminiser pour prouver aux autres qu'elle est une femme. Donc, elle en fait trop. Donc, il fallait trouver une forme de grâce, une posture. Et là, c'est le costume qui aide. Parce que quand on met un corset, notre posture, elle change. La coiffure, elle pesait. Donc, en fait, ma tête, il fallait que je lutte, en fait, pour tenir droite. Donc, j'ai retrouvé une forme de posture presque trop rigide parce qu'en fait, j'avais pas la possibilité avec le corset. Et que ce soit, par exemple, sur Mon Crime ou sur Rosalie, c'était Pascaline Chavanne sur Mon Crime et Madeleine Fontaine sur Rosalie, qui sont de grandes chefs costumières. En fait, c'était un vrai moment pour trouver le personnage. Parce qu'avec les deux, je suis allée tellement de fois à l'atelier et on cherchait des choses. Elles ont toutes les deux créé les costumes sur mesure. Et que ce soit pour les années 30 ou là, le costume, ça définit le personnage. Et de trouver, mais que ça aille jusqu'au tissu, à la couleur. La Rosalie, c'est elle qui fait ses robes, donc pourquoi elle met des fleurs, jusqu'à quelle... Pourquoi d'un coup, le bleu, il passe d'un bleu très enfantin à un bleu beaucoup plus foncé, qui est plus assumé, qu'il a... Même le costume avait ce truc de d'évolution pour devenir femme. Enfin, voilà, en tout cas, moi, c'était un moment de recherche pour trouver le personnage. Ouais, on l'utilise...
Alors, il y a une très belle distribution dans ce film, que ce soit Alain Biollet, Guillaume Gouix, Benjamin Biollet, quand même un acteur incroyable, mais il y a quand même votre mari à l'écran, qui est pour moi l'un des meilleurs comédiens au monde à l'heure actuelle, c'est Benoît Magimel.
Ouais.
Je me demandais, un peu bête comme question, mais comment c'était de jouer avec lui?
En fait, c'est un immense acteur et je l'ai encore plus compris en jouant avec lui, parce que c'est quelqu'un... on est dans une sorte de, en fait, de grande bienveillance et un consentement et un endroit de safe place sur le plateau. Donc on sait où on va, on est guidé par Stéphanie qui sait exactement où elle va. Et en même temps, c'est quelqu'un qui ramène au présent, qui faisait que chaque scène, je savais pas ce qui allait se passer. Alors que je savais, donc tout dans la fiction, mais par exemple la nuit de noces, au début du film, On tournait dans l'ordre chronologique, en plus.
Ça, c'est bien. Ouais, c'est
rare. Et on se parlait pas beaucoup. En fait, même Stéphanie,
en dehors de...
pas qu'on se parle, ouais.
Du plateau.
On s'était jamais parlé avant. Le premier regard dans le film, c'est notre premier regard. Même dans les loges, on se croisait pas. On s'était vu à Cannes sur un trottoir. On s'était dit, on n'a pas le droit de se parler. On s'est mis, on est parti. Enfin, c'était vraiment particulier comme méthode. Mais du coup, ça a fait qu'on s'est rencontrés dans les scènes. Et notre complicité, elle est née comme ça, dans les scènes. Et Benoît, cette nuit de noces, ma main, elle claquait contre la porte tellement j'avais peur de rentrer parce que je savais pas comment Abel et Benoît allaient réagir, quoi. Parce que les deux n'avaient pas vu. Et en fait, j'ai été envahie par un trac, mais fou. Et en fait, parfois, même des scènes où je savais exactement ce qui allait se passer, ils créent un présent, ils créent une atmosphère, donc ils créent des moments de vie qui faisaient qu'à un moment donné, quand il nous sort cette réplique qu'on attendait, mais j'avais déjà oublié, ça faisait 20 minutes qu'on faisait autre chose. Et du coup, il y a une des scènes dans le film, je devais pas du tout pleurer, et j'ai eu d'un coup une envie de pleurer, mais comme ça m'est rarement arrivé dans ma vie. Et en fait, ça, je me dis, c'est fou, parce que, bon, toutes les fois où on essaie de pleurer, on n'y arrive pas, et puis on convoque des choses et tout. Et là, je me disais, mais c'est pas possible, j'ai lutté, et je me suis dit, mais ça, c'est fou, de créer des vrais, sans que ça m'atteigne moi, mais enfin, on était dans le jeu, mais c'était... Il est surprenant, voilà, il est déroutant. Son choc m'a choqué, son regard m'a modifié. Enfin, il m'a vraiment emmené dans des endroits de jeu que j'oublierai jamais. Donc pour ça, je le remercie. Et il est généreux, il est très généreux pour l'autre. Il donne énormément.
Ça se sent.
Ouais.
Et ça se voit dans ce film qui vient de sortir aujourd'hui sur les écrans. En deux secondes, une question qui mérite une réponse très courte.
Oui.
On vous verra un jour au théâtre ou pas?
J'espère.
Là, les yeux pétillent un peu. Bon, c'est pas complètement perdu. Pour l'instant, on peut vous voir sur grand écran dans Rosalie de Stéphanie Di Giusto qui est sortie aujourd'hui dans les salles. Merci beaucoup Nadia Tereskevitch d'avoir été notre invitée.
Merci.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
S'il y a bien un nom qui revient sans cesse, c'est celui de Caroline Polachek. La musicienne américaine est portée au nu par toute une génération de mélomanes et d'artistes qui admirent l'audace avec laquelle elle bouleverse l'architecture de la pop. Eugénie est une des aspirantes pop stars du nom du télécrochet auquel elle avait participé durant son adolescence, qui reconnaît en elle un modèle. Son précédent EP, Moments in Time, paru en 2022 et chanté en anglais, tenait quelques belles promesses par ses productions drum and bass et R&B. La suite est attendue pour le mois de juillet avec un nouvel EP, dont un extrait vient de sortir, Stop. Chanté en français, il se fait le miroir d'une jeunesse française biberonnée à l'hyperpop et qui ne devrait pas s'arrêter là. C'est notre son du jour.
J'ai trop parlé, les mots sont futiles, n'ont plus d'impact, non. Si j'avais gardé les phrases qui mutilent, tu serais intact. J'en ai trop dit. Et t'as rien retenu, rien compris. Pas même un fragment, un petit. J'ai pris des gants, mais rien n'a pris. Pourquoi nous gâcher, pourquoi dit. Maintenant on passe du blanc au gris. Stop, 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 stop. T'as trop parlé. Les mots sont futiles, n'ont plus d'impact, non. Si t'avais gardé les phrases qui mutilent, je serais intact, non. Tout est indécent, t'en as trop dit, pris des gants, mais rien n'a pris. Pourquoi nous gâcher, pourquoi dire? Maintenant on passe du plan au cri.
C'était Stop de Génie en attendant son nouvel EP au mois de juillet.
France Culture, le grand tour, le grand tour. Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, le Festival du Livre de Paris ouvre ses portes au Grand Palais éphémère vendredi, avec cette année comme invité d'honneur le Québec. Alors pour s'immerger dans cette littérature, en attendant la délégation d'auteurs et d'autrices qui arrive en France ces jours-ci, direction Montréal, avec ce soir une visite du quartier de Michel Tremblay, grand romancier et dramaturge, connu notamment pour son cycle romanesque en 7 tomes, le cycle qui s'appelle « Chronique du plateau Mont-Royal », paru en France chez Actes Sud.
Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer.
Moi, je suis Bruno Lajeunesse. Je suis tout simplement guide touristique de Montréal, mais je fais de plus en plus des visites spécialisées, c'est-à-dire des visites qui portent sur un thème particulier.
Et quel est votre lien avec Michel Tremblay? Vous l'avez lu?
Ah oui, je suis un fan. Moi, quand je lis Michel Tremblay, j'entends mes parents, j'entends mon père, j'entends ma mère. Eux, ils ont vécu cette période-là. Pas dans les mêmes écoles, bien sûr, pas dans les mêmes rues, mais c'est exactement les mêmes expressions, les mêmes frustrations aussi. Michel Tremblay, ce qu'il a écrit, bien, c'est un grand agent de changement social, là. Quand il a commencé à écrire dans les années 1960, c'est en plein milieu de la Révolution tranquille, Michel Tremblay abordait des thèmes tabous, là, dans les années 60. Vous allez voir au long de la visite, là, tu sais, là, tout ce qu'il aborde, tout ce qu'il évoque. Bon, on devine ce qu'il veut dire. Il ne dit pas de façon intégrale ou littérale dans ses œuvres, là, mais on comprend de quoi il parle. Vous allez voir de temps en temps, là, il y a des scènes un petit peu troublantes aussi là, qui ont eu lieu. Là. Surtout dans La grosse femme d'à côté est enceinte. Là, on parle de la guerre, de la conscription. On parle de ces femmes enceintes sur la rue Fabre. On va marcher sur la rue Fabre. Moi, c'est ça. Alors, j'ai vraiment accroché à ces romans-là. J'ai dévoré les 6 tomes au fur et à mesure qu'il y en a un qui sortait. Je me pitchais là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. Oui, ça, c'est une expression de mon père. C'est le genre de truc qu'on entendrait dans le théâtre de Michel Tremblay. Michel Tremblay s'est d'abord fait connaître au théâtre avec les Belles-Sœurs. Le théâtre du Rideau Vert, il n'est pas très loin d'ici, sur la rue Saint-Denis. Puis ensuite, dans ses romans, dans les chroniques du plateau Mont-Royal, ce sont tous les personnages qu'à peu près tout le monde connaît, là. Même ceux qui ne sont pas des fans de Michel Tremblay ont entendu parler des Belles-Sœurs. Michel Tremblay écrit en joual. Il écrit vraiment dans le langage d'ici. Il y a des dictionnaires maintenant où on peut trouver des traductions. Mais regardez ce que je vous ai apporté. L'univers de Michel Tremblay, c'est le dictionnaire de tous ses personnages. Il y en a plus de 2000. Et l'œuvre est divisée en 2 parties. Vous avez les personnages fictifs, c'est ça qui m'intéressait surtout, parce que c'est ceux qui sont présentés dans les romans, et les personnages référentiels. Alors, de qui il s'inspirait dans la vraie vie? Ça peut être un homme, une femme politique, ça peut être des gens connus, ou des gens tout simplement qui faisaient partie de sa famille, son entourage. Alors, ils sont identifiés là-dedans. Donc, on peut vraiment tout savoir. Ici, on est au Parc Laurier. On est à 5 minutes du métro Mont-Royal. C'est facile à trouver. Mais c'est aussi ce lieu qui est à l'origine du plateau Mont-Royal. Le plateau Mont-Royal, c'est un arrondissement. C'est un des 19 arrondissements de la ville de Montréal. Le quartier qu'on va parcourir, c'était vraiment un quartier d'ouvriers, là. Ouais, je dois le dire et le redire parce qu'aujourd'hui, c'est terminé, là. Être un ouvrier, non, on ne vit pas sur le plateau Mont-Royal. Alors, les chroniques du plateau Mont-Royal, c'est comme si Michel Tremblay donnait le droit au petit monde. D'ailleurs, on disait autrefois le petit monde de Michel Tremblay. Aujourd'hui, c'est le monde de Michel Tremblay. Alors, il leur permettait, dans leur propre langage, d'extérioriser un petit peu leur frustration. Donc, on leur donne la parole. Alors, il y a de la colère, beaucoup, dans les œuvres de Michel Tremblay, mais il y a aussi beaucoup de passages assez comiques. Ça fait sourire peut-être plus les Québécois que des gens qui sont pas d'ici, parce que les expressions, quand on les lit, on les entend. Puis souvent, dans le contexte où c'est présenté dans le roman, là, ça fait rigoler. Là. Moi, j'ai lu ça des fois, le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Puis d'autres scènes me disent « Oh, là, il touche à quelque chose. » Pédophilie, homosexualité, Michel Tremblay est un homme gay, anticlérical. Alors là, il touche des sujets un petit peu tabous.
Alors, on vient de marcher quelques mètres depuis le parc Laurier. Où est-ce qu'on se trouve? Pourquoi on s'arrête ici?
Alors, on est juste à côté de l'ancienne cour d'école de l'école des Saints-Anges que fréquentaient donc des petites filles jusqu'à la troisième année de l'école primaire et les personnages du deuxième tome des chroniques du plateau Mont-Royal intitulé « Thérèse et Pierrette à l'école des Saints-Anges ». Alors, c'est un roman vraiment où l'histoire se déroule en moins de 4 jours. Et ça se passe au mois de juin 1942, un mois après la fin du premier tome. La grosse femme d'à côté est enceinte.
Et qu'est-ce qui se passe dans ce roman-là?
Alors, c'est tout simplement l'organisation d'une grande fête religieuse, comme il y avait ici jusqu'aux années 1960. Dans chaque paroisse, il y avait la fête Dieu. Alors, la fête Dieu, ça a lieu le 9e dimanche après Pâques. Et chaque paroisse se faisait une fierté d'organiser le défilé le plus spectaculaire. Il y avait presque une concurrence d'une paroisse à l'autre. Je m'assis devant une table vide, puis je dis au waiter de la remplir. Juste un mot, puis la table se remplit. Pleine de bière, pleine, juste à moi. C'est ça être riche. Moi, là, je lis ça, je pense à mon père. Alors, c'est son seul plaisir de la vie. Lui, il termine sa job, son travail, il se retrouve là, comme la plupart des pères de famille aussi. Puis là, il va prendre un petit coup. Je dis au waiter, le waiter, c'est le serveur. Il fait remplir carrément sa table. Parce que ça a été télévisé, là, cet extrait de la pièce de théâtre, moi, je l'ai vu. L'acteur qui joue Léopold Brassard est assez convaincant, d'ailleurs. Fait qu'il est assis tout seul à sa table. Il fait juste un geste au waiter, puis effectivement, la table se remplit. Moi, j'ai vu ça, là. Mon père m'a déjà amené dans les tavernes, parce que jusqu'aux années 1970, les tavernes, c'était des lieux réservés aux hommes, là. Il n'y a pas une femme. Bien, quand les femmes arrivaient dans la taverne, la plupart du temps, c'était avec le rouleau à pâte pour venir chercher le mari qui est en retard pour le souper, là, tu sais. Alors, quand une femme rentrait dans une taverne, bien, ça allait comme grouiller un petit peu. Mais c'est pas mal l'état d'esprit. Je pense que la plupart des hommes qui fréquentaient les tavernes dans cette période-là, qui est la grande noirceur, c'est comme ça qu'ils se sentaient, tu sais.
Le chemin de la prairie nous conduit au Tennessee. Les oiseaux, le chant, le cri, c'est joli, c'est toute ma vie.
On vient de découvrir avec vous tout le monde de Michel Tremblay, tout ce quartier où ont lieu toutes les intrigues de ses livres, la maison des personnages, etc. Moi, j'ai l'impression, après vous avoir écouté parler, que vraiment le quartier est marqué de cet héritage de Michel Tremblay. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les gens qui y habitent sont aussi empreints de cette littérature-là? Est-ce qu'elle est toujours aussi importante?
Les gens qui sont nés ici, entre les gens de mon âge, francophones, c'est certain ils vont associer Michel Tremblay au plateau Mont-Royal et vice-versa. Mais puisque maintenant, il y a des communautés portugaises, haïtiennes, un peu partout dans le monde, qui n'ont pas vécu leur enfance sur le plateau Mont-Royal, peut-être un peu moins. Mais très vite, là, si vous allez à l'école ici, dans les cours de français, dans les collèges, dans les universités, si on parle le moindrement de littérature ou de théâtre québécois, c'est un nom qui est toujours évoqué, Michel Tremblay. Donc, c'est un incontournable, vraiment. Mais monsieur, madame, tout le monde du plateau Montréal, j'aurais répondu oui, sans aucun doute. Il y a peut-être une vingtaine, une trentaine d'années, mais aujourd'hui, c'est autre chose, le plateau Montréal. C'est un quartier qui s'est vraiment beaucoup gentrifié.
Et pour les auditeurs français qui n'auraient jamais lu du Michel Tremblay, qu'est-ce que vous recommandez comme première lecture? Par quoi on commence?
Ben, définitivement, moi, je proposerais les chroniques du plateau Mont-Royal. D'ailleurs, ce qui est intéressant, les chroniques du plateau Mont-Royal, c'est 6 tomes. Vous n'êtes pas obligé de lire les 6 tomes. Vous n'êtes pas obligé non plus de lire les livres dans l'ordre où ils ont été écrits. Vous pouvez lire n'importe lequel. Mais ma suggestion à moi, ce serait le premier tome. La grosse femme d'à côté est enceinte parce que là, on vous présente les principaux personnages qui vont revenir dans tous les autres tomes et qui sont aussi présents dans l'œuvre théâtrale de Michel Tremblay. Donc, c'est sûr qu'après avoir lu La grosse femme d'à côté est enceinte, qui est le premier tome, la plupart des gens vont avoir le goût d'en lire au moins un deuxième, puis un troisième. Mais définitivement, ce serait ma première suggestion.
Merci beaucoup.
C'est un plaisir.
Suite du Grand Tour, demain, Marie Sorbier, où serez-vous?
Demain, Arnaud, suite de notre découverte de la littérature québécoise, nous rencontrerons plusieurs maisons d'édition, toujours à Montréal.
Merci Marie, à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche, Emma Rouberti et Jeanne Agrapard.